C'est étonnant, non?
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de musique. Et je vais vous entretenir plus précisément des compositeurs noirs. Cette première très joyeuse musique est l'œuvre d'un compositeur d'origine française qui s'appelait Jelly Roll Morton. Son vrai nom, c'était Ferdinand Joseph Delamante. Ce sont des choses qui ne s'inventent pas. C'est un compositeur de la Nouvelle-Orléans et il a enregistré lui-même avec ses camarades cette œuvre en 1929 et son titre est Kansas City Stomp. Alors à la fin de sa vie, Jelly Roll Morton avait un peu pété les plombs. Et il racontait à tous les gens qu'il rencontrait que c'est lui qui avait inventé le jazz. Quelle drôle d'histoire. Alors, contrairement à ce que beaucoup de personnes pourraient penser, on aurait tendance à mettre les compositeurs noirs à la fin du 19e et au 20e siècle, avec évidemment l'influence du jazz. Bien sûr, il y a énormément de musiciens noirs et de compositeurs noirs dans cette branche de la musique, mais ça a commencé bien plus tôt que ça. La première coqueluche du XVIIIe siècle a été quelqu'un qu'on appelait le Chevalier de Saint-Georges. C'était un violoniste, excellent violoniste, et on l'appelait le Mozart français. Il a eu un succès fou auprès de l'aristocratie de l'époque, et il était en plus fort joli garçon, excellent violoniste, et il a composé un grand nombre d'œuvres, notamment pour son instrument. On en écoute une. Thank you. Il y a quelques semaines, j'aurais été fort embêté pour vous parler du compositeur que je vais vous présenter maintenant, qui s'appelle Edmond Dédé. C'est grâce à mon voisin, Stéphane Collin, un grand amateur de musique et grand connaisseur de musique de la Nouvelle-Orléans, qui m'a aimablement passé un disque qu'il a rapporté de là-bas. Qu'il en soit mille fois remercié. Alors, il a un curieux nom. Il est né à la Nouvelle-Orléans en novembre 1827, mais d'une famille franco-antillaise, mais libre. Ce n'était pas des esclaves. Son père était chef d'une fanfare, donc c'est le premier qui lui a donné ses leçons. Il a commencé par la clarinette, ensuite il a travaillé le violon. Il est devenu d'ailleurs un violoniste d'assez grande qualité. Et il s'est perfectionné ensuite en contrepoint, en harmonie, avec un Français qui était là, qui s'appelait Eugène Prévost. Il publie sa première mélodie il y a une vingtaine d'années. Ça s'appelle « Mon pauvre cœur » et c'est la plus ancienne pièce musicale écrite par un musicien créole de couleur. Il va travailler un petit peu comme fabricant de cigares et ensuite, avec ses économies, il s'embarque en direction de l'Europe. Alors, il arrive au Conservatoire de Paris et là, il va étudier avec Fromental à Lévis, qui était le beau-père de Georges Bizet, et Delphin Allard, qu'on connaît moins, mais qui était également un professeur de composition. Et à l'époque, il y a une classe pour les élèves étrangers, comme ça, où ils peuvent être auditeurs. Alors, ils assistent au cours, mais ils ne passent pas le concours et ils rentrent uniquement s'il y a un nombre de places suffisantes. Mais la plupart du temps, les professeurs leur donnaient rendez-vous et si le profil leur plaisait, les acceptaient. Ça a été son cas. Ensuite, il va aller à Bordeaux. Il va occuper le poste de chef assistant du ballet au Grand Théâtre. Ensuite, il va trouver un emploi à l'Alcazar, qui est un grand théâtre qui fait aussi des choses lyriques, un café-concert. Il va quand même diriger là pendant 27 ans, ce qui n'est pas rien. Il va travailler aussi dans un endroit qui a disparu maintenant, où on devait bien s'amuser, qui s'appelait les Folies Bordelaises. Il se marie en 1864 avec une Française et il a un fils qui va devenir aussi chef d'orchestre et compositeur de chansons. Ensuite, il va essayer de retourner à la Nouvelle-Orléans en 1893. Alors, il y a plein de problèmes pendant la traversée, le bateau a des avaries et il va même perdre son violon de Crémone, qui lui était très précieux. Alors, il en a un petit peu marre de subir des préjugés raciaux parce qu'il a vécu ça toute sa vie. Donc, du coup, il revient à Paris où il rentre à la Société des auteurs. Il va mourir à Paris le 4 janvier 1901. On va écouter une mélodie accompagnée au piano qu'il a écrite. Tout un programme qui s'appelle « Chorale à Bordelaise ».
Girondes près de
Florence Price est la première compositrice afro-américaine à avoir pu faire représenter une de ses symphonies par des grands orchestres du pays. Alors elle est née à Little Rock en 1887. Elle va étudier avec des gens très sérieux, notamment le contrepoint avec George Chadwick, qui était à l'époque une autorité. Et elle va enseigner ensuite la musique au collège Shorter de North Little Rock de 1906 à 1910, puis à l'université à Atlanta. Elle va épouser Thomas Price, dont elle va divorcer quelques années après, mais elle va conserver son nom. Ils ont trois enfants, et en raison de ses origines noires, elle se voit refuser l'adhésion à l'Arkansas Music Teachers Association, ce qui est quand même déjà passablement ignoble. La famille Price s'installe à Chicago en 1926, dans l'espoir d'un meilleur climat, parce que visiblement il y a un meilleur climat social à Chicago que dans l'endroit où ils viennent. La culture noire, littéraire, musicale, picturale, commence à prendre une certaine ampleur. En 1928, elle remporte un prix pour une pièce pour piano. Elle se perfectionne encore avec deux autres compositeurs au Conservatoire américain de musique et au Collège de musique de Chicago. Elle en sort diplômée en 1934. En 1932, deux ans avant, elle se casse une jambe. Et pour s'occuper, elle écrit sa première symphonie. La première symphonie est représentée en 1932 et elle reçoit le prix de la fondation Roman Wanamaker, qui était un mécène et quelqu'un qui aidait beaucoup les jeunes compositeurs et les jeunes compositrices. Et en l'occurrence, la symphonie a été créée lors de l'exposition universelle. Elle a été quand même créée par l'Orchestre symphonique de Chicago, qui était à l'époque un des meilleurs d'Amérique, sous la direction de Frédéric Stock. Bon, ensuite, d'autres œuvres vont suivre. Elle a un catalogue de presque 300 œuvres, et il y en a malheureusement qui ne sont pas arrivées jusqu'à nous. Alors on va écouter une œuvre qu'elle a écrite la dernière année de sa vie, qui s'appelle « Dances in the Canneres », qui signifie en fait « Danse dans les cannes à sucre ». Nous avons écouté la première des danses. La suite, qui en comprend plusieurs, au total dure presque 10 minutes. Alors elle est aussi compositrice de mélodies, d'œuvres de musique de chambre. Elle a vraiment donné dans beaucoup de styles. Et on va écouter une autre de ses œuvres qui s'appelle Adoration, pour violoncelle et piano. Et cette musique écrite par une femme est également jouée par deux femmes. Laura Lestrade et Michel Schumann. Autre femme compositrice d'un tout autre style, Winifred Atwell. Celle-ci, excellente pianiste, s'est fait une spécialité de ce qu'on appelle le piano bastringue, c'est-à-dire un piano qui est légèrement désaccordé pour faire un effet d'endroit où il y a vraiment du bruit. On l'écoute dans une de ses œuvres qui s'appelle Jubilee Rag. Il y a des gens qui savent tout faire. Winton Marsalis, né en 1961, fait partie de ceux-là. Extraordinaire trompettiste, chef d'orchestre, arrangeur et bien sûr compositeur. Le petit extrait de pièce que je vais vous passer maintenant, c'est une commande que lui a fait l'orchestre de New York, l'orchestre et le chœur, qui a été créé en 1999 et qui s'appelle All File. Je vous en passe un tout petit morceau, mais la pièce complète dure presque 2 heures. Si vous avez le temps, allez faire un tour sur Internet, vous allez le trouver sur YouTube, vous passerez vraiment un bon moment. On écoute cet extrait. Je vais terminer avec un compositeur que vous connaissez tous, il s'agit de Scott Joplin. Alors vous le connaissez tous, pourquoi ? C'est lui qui a écrit cela. Ce ragtime très connu a été écrit par lui. Il s'appelait The Entertainer, ce qui veut dire l'amuseur. Il a été repris dans un très célèbre film avec Robert Redford et Paul Newman qui s'appelait L'Arnaque. Scott Joplin a écrit des tas de choses et il a même écrit un opéra qui n'a pas été orchestré par lui et pour cause, il était mort. L'orchestration a été faite par quelqu'un qui s'appelait Günther Schuller. L'opéra est absolument sublime, on en écoute un extrait.
Let your steps be light and neat. Oh, we're going round.
C'est magnifique, n'est-ce pas? Et il en a écrit deux. Le premier s'appelait A Guest of Honor. Et comme la deuxième symphonie de Florence Price, que j'ai évoquée tout à l'heure, décidément les compositeurs noirs n'ont vraiment pas de la chance avec les éditeurs, les deux partitions ont été perdues.
C'est étonnant, non?